Alors, petite présentation succincte. Donc, je suis le père Florian Racine, je suis dans le diocèse de Fréjus-Toulon. On a une petite communauté de prêtres qui s'appelle les missionnaires de la très sainte Eucharistie, qui ont pour mission, eh bien, déjà de vivre l'adoration, faut d'abord le vivre, et ensuite d'annoncer, d'aimer Jésus dans l'Eucharistie et de tout faire comme on peut, malgré nos limites et nos pauvretés, pour faire aimer Jésus dans l'Eucharistie. Alors ça se passe par des missions paroissiales où on lance l'adoration, on invite les gens à donner une heure par semaine pour être avec Jésus, vraiment présent au Saint-Sacrement. Ça passe par des missions de relance. Alors on avait lancé ici, on avait été invité par le père Richard Escudier. Je me souviens, il y a quoi, une dizaine d'années, peut-être, non, à peu près, ouais, un peu plus, ouais, ça passe, voilà. Et tous les 2-3 ans, on vient faire une petite relance, c'est-à-dire qu'on prêche de nouveau différentes messes pour inviter des nouvelles personnes hein, qui sont peut-être sur la paroisse et qui ont emménagé, mais qui ne sont pas nécessairement au courant hein, de cette démarche, de cette initiative pour redonner le sens, la valeur. Donc ça, c'est les missions paroissiales. On a ensuite des congrès, des colloques qu'on appelle Adoratio. Il y en a un à Toulon cet été qu'on organise. On est basé à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et à Toulon. On a 2 maisons, ça fait 6 prêtres en gros. Il y a 4-5 séminaristes qui sont discernement voilà, pour devenir mission à Sainte-Eucharistie. Et puis là, on organise alors une démarche un peu originale, une procession eucharistique sur 70 km. Voilà, d'habitude, on fait le tour de son église et nous, on part de Saint-Maximin avec une calèche. On va mettre Jésus, non pas sur le cheval, mais dans la calèche. Et on va faire une chapelle ambulante et des gens qui vont suivre. On l'aide village en village. Et l'idée, c'est de marcher le matin tôt. Il fera chaud, hein, c'est l'été. Et puis après, l'après-midi, on fait de l'évangélisation. On invite tous les gens pour une grande soirée adoration, confession. Et on va de village en village sur 5 journées. Voilà, on essaie de lancer cette initiative-là. Et plein de choses. Voilà, on a plein de belles choses. Alors, ce soir... les responsables, donc Pascal, m'a demandé de parler de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, la figure de Jean-Baptiste, et on va essayer de réfléchir un petit peu à la vocation de ce grand saint, un des plus grands saints qu'on ait dans l'Évangile. Donc je vais essayer de parcourir un petit peu les différents aspects ou passages de sa vie et voir comment nous, dans notre adoration, eh bien, nous pouvons être stimulés hein, par cette figure de Jean-Baptiste. Voilà. Et ensuite, si on a le temps, en fonction du temps, on essaiera de voir un petit peu, faire un petit commentaire, mais ultra condensé et synthétique, sur le livre de l'Apocalypse, qui est un livre entièrement centré sur l'adoration de l'agneau. Et le prêtre, à chaque messe, il élève l'hostie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, on me demandait, c'est vrai, juste avant, 2-3 personnes, est-ce que l'adoration, ça se développe, hein, oui ou non ? C'est vrai que l'adoration, j'ai envie de dire, est à l'opposé de notre culture moderne. On est dans une culture de l'image, de l'écran, du son, du feeling. Il faut ressentir, il faut vibrer, il faut... voilà, c'est ce qu'on a quand on va au cinéma, quand on est devant un écran de télévision. Mais derrière toutes ces émotions, si vous tirez l'écran de votre télévision, vous avez un mur, il y a l'absence réelle. Hein, voilà. Par contre, l'adoration, c'est absolument le contraire. Il y a zéro feeling, zéro image, zéro son, zéro ressenti, rien de rien de rien, mais vous avez dans cette petite hostie la présence. La présence. La seule présence qui compte, c'est la présence de Jésus hein, qui est mort et ressuscité. Et ce Jésus ressuscité, il est à la droite de Dieu dans son mode naturel, dans sa gloire, et il a choisi, sans quitter le ciel, de se rendre présent parmi nous sous les apparences du pain. D'abord pour se faire nourriture, mais aussi pour être notre compagnon de route. Hein ? Et il veut simplement rester avec nous pour nous accompagner dans les joies, dans les peines, être toujours là. Un ami, c'est quelqu'un qu'on aime, c'est quelqu'un qui est là. Et le Seigneur eh bien, choisit ce mode incroyable du sacrement de l'Eucharistie pour se rendre personnellement, réellement présent, hein, bien que c'est notre Dieu qui est un Dieu caché. Alors, revenons, on va commencer par Jean-Baptiste. Aujourd'hui, c'est la fête de la Visitation. Alors, ça tombe bien parce que justement, on parle de Jean-Baptiste dans l'Évangile. Et Jean-Baptiste, la première étape de sa vie, dont on est au courant hein, dans l'Évangile, c'est lorsqu'il est dans le sein de sa mère Élisabeth. Et en Luc 1, c'était le texte de l'Évangile, je le relis, « Marie entra chez Zacharie, salua Élisabeth, et il advint dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie que l'enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit « Bénie es-tu entre toutes les femmes, bénis le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. » Visitation. Pourquoi visitation ? Normalement, on dit visite, hein, on va visiter quelqu'un. Alors, pourquoi ici, ce n'est pas qu'une visite ? Une visite, on pourrait dire, c'est une rencontre entre une personne, soi-même, et une personne qu'on va rencontrer. Mais ici, il y a plus qu'une rencontre. En fait, il y a deux rencontres. Il y a la rencontre de ces deux femmes qui se salue, et la Vierge Marie qui va rendre un service, aider sa cousine Élisabeth. Mais vous avez aussi et surtout la rencontre entre ces deux petits embryons. Hein. Alors Jean-Baptiste, il a 3 mois et Jésus, il a 1 semaine. Hein, je ne sais même pas si on utilise le mot embryon pour 1 semaine. Et voilà qu'il y a eu une effusion d'Esprit-Saint. Cette effusion de l'Esprit-Saint ne vient pas de la Vierge Marie. Hein. Cette effusion de l'Esprit-Saint vient du Verbe incarné, qui n'a qu'une semaine dans le ventre de Marie. Et donc, quand ces femmes se saluent, ces petits embryons, on va dire, communiquent à travers cette effusion de vie, de joie, qui fait que toute la maison d'Élisabeth est complètement dans la joie. Hein. Il bondit de joie. Alors, on a donc ici, voilà, deux, hein, on pourrait dire, pour qu'une visite devienne une visitation, alors là je force les mots, hein, on pourrait dire c'est lorsqu'on dépasse la personne mais qu'on arrive à rencontrer le Seigneur qui est dans la personne, hein, ou que ça soit vraiment une œuvre de charité où c'est Jésus en moi et qui vienne changer, toucher à travers ma propre personne, hein, comme ici c'est Jésus en elle. Je me souviens de ce passage de la visitation a été commenté souvent par Charles de Foucault, Saint Charles de Foucault. Il disait dans son désert, hein, ma présence fait-elle quelque bien ici ? Je ne sais pas. Mais la présence de Jésus, hein, mais Jésus, alors ça y est, j'ai pas exactement la phrase en tête, mais Jésus ne peut être en un lieu sans rayonner. Hein. La présence de Jésus fait certainement du bien. En d'autres mots, lorsqu'on élève Jésus dans la foi, lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Lorsqu'on élève Jésus dans la foi, Jésus travaille. Hein, Jésus travaille, Jésus agit, et Jésus rayonne. Il y a un rayonnement eucharistique. C'est toute la tradition de la vie contemplative. Les moines qui vont prier au milieu de la nuit, qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils prient ? Eh bien, ils vont élever Jésus dans la foi. Ils intercèdent, ils sont là, ils veillent hein, au nom du Seigneur. Alors, revenons à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va passer 6 mois, en fait, dans le ventre de sa mère, en contact avec le Verbe incarné que l'on a aujourd'hui dans l'Eucharistie, c'est le même, mais là qui n'était pas encore né, qui était dans le sein de la Vierge Marie. Donc on peut dire que Jean-Baptiste est un adorateur du Verbe incarné par Marie. Hein, voilà. Et donc nous tous, eh bien, nous avons besoin de la Vierge Marie. Alors, il y en a qui vont prendre leur chapelet, comme Mère Teresa de Calcutta, elle aimait bien commencer son heure d'adoration par 15 minutes avec Marie pour dire à Marie, tu me conduis à Jésus, et ensuite 3 quarts d'heure en silence. Il y en a d'autres qui vont simplement dire un Magnificat, il y en a qui vont simplement penser à Marie, mais allez adorer avec la Vierge Marie, parce que Marie vous aide à dépasser hein, les apparences pour rencontrer Jésus, et par Jésus rencontrer le Père et recevoir l'Esprit Saint. Hein, pour que ça soit une rencontre trinitaire. Voilà. Alors, on va dire Jean-Baptiste, voilà, adorateur du Verbe incarné avec Marie, nous devons l'imiter dans cette mission-là. Jésus, dans l'Eucharistie, est le modèle du don. Il se donne, ceci est mon corps, donné, livré, sacrifié, offert. Je donne, mais tout. Et Marie, c'est le modèle du oui, qui reçoit complètement le don de Dieu. C'est-à-dire que Marie est la seule qui ne gaspille pas les grâces du Seigneur. C'est-à-dire qu'elle prend tout. Nous, on en prend un peu, hein, mais voilà, on n'a pas un cœur suffisamment pur, suffisamment ouvert, suffisamment disponible hein, pour recevoir tout ce que Dieu veut me donner dans l'Eucharistie. Eucharistie, c'est don. Marie, c'est réceptivité. Enfin, j'aime pas ce mot. Hein, c'est le oui au plan de Dieu. Et donc Marie m'aide à vivre ce décentrement que l'on vit dans l'adoration. Je passe du moi au toi. de ma volonté pour Dieu à la volonté de Dieu, de mon plan pour le Seigneur à « Seigneur, c'est quoi que tu veux que je fasse aujourd'hui ?» hein, ou « Donne-moi la force de faire ta volonté. » Donc ce décentrement, eh bien, c'est ce qu'on vit dans l'adoration. Hein. L'adoration, comme disait un franciscain du Bronx, un témoignage qu'on cite souvent, il disait « Dans le cœur de l'homme, il y a deux trinités. Il y a la trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » Hein, donc ça, c'est ce qu'on reçoit le jour du baptême. Et puis, il y a l'autre trinité, c'est « me, myself and I ». En français, « moi, personnellement, je ». Voilà, c'est « moi, je hein. ». Et donc, la vie chrétienne, c'est toujours passer du « moi, je » à « toi ». C'est quoi hein. Donc, Marie nous aide à vivre ce retournement pour que l'Eucharistie, je reçoive hein, ce que Dieu veut me donner. Alors, ensuite... Jean-Baptiste est habité par l'esprit d'Élie. Maintenant, on a Jean-Baptiste, il est né, il est adulte, et il va prêcher l'alliance, hein, le retour de l'alliance. C'est l'ange Gabriel qui dit, à propos de Jean-Baptiste, « Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors, il faut revoir c'est qui Élie. Hein, pour comprendre Jean-Baptiste, il faut revoir qui est Élie. Et Élie, c'est justement cet homme qui s'est retrouvé tout seul. Tout le monde avait abandonné l'Alliance. Il n'y en restait plus que un. Alors nous, souvent, on se trouve minoritaire, mais on n'est pas un. Hein, on est quoi, une cinquantaine? Au moins ici, il y en a d'autres, hein, quand on voit nos églises. Mais c'est vrai que Jean-Baptiste, même si on peut avoir cette impression de se retrouver seul dans nos familles, très souvent dans certains milieux, eh bien, Élie, il va vouloir chasser les idoles, hein, les Baals, vous savez, les prêtres de Baal avec leurs idoles. Et donc, il va y avoir trois parties dans sa première vocation. Après, il y aura d'autres événements, mais j'en cite trois qui nous aident à comprendre, nous, comment revenir à l'Alliance. Et l'Alliance, c'est l'Eucharistie. Première partie, vous savez, c'est le sacrifice des prêtres hein, de Baal. Ils veulent savoir qui est le vrai Dieu. Ils vont faire un test. Hein, on va mettre Dieu à l'épreuve. Alors, il ne faut pas le faire, mais bon, tantôt, ils l'ont fait quand même. Et donc, on va dire, les prêtres de Baal vont construire un autel, ils mettent une victime, un animal, et ils vont prier que Dieu immole, consume, agrée, prenne hein, cette victime en envoyant le feu de Dieu hein, dessus pour le prendre. Et puis, on sait ce qui se passe. Vous vous souvenez, c'est dans le livre des rois. Il n'y a rien qui se passe. Ils se taillent, ils sont à moitié fatigués, ils s'évanouissent. Bref, rien ne se passe. Et ensuite, Élie, à son tour, il construit son autel. Il met un animal. Il inonde l'animal d'eau. Ce qui s'oppose au feu. Hein. Normalement, l'eau et le feu, c'est le contraire. Et puis, au moment où il invoque le nom de Dieu, il y a le feu hein, qui vient, qui descend, qui embrase, qui consume cet animal en offrande. Et voilà que eh bien, son sacrifice est agréé. Et donc, c'est ce qu'on appelle une préfiguration de la consécration. Qu'est-ce qui se passe à la consécration? Au moment où le prêtre impose les mains hein, sur le pain, et le vin, ensuite, il prononce les paroles de la consécration. Et au moment de la parole du prêtre, c'est Jésus hein, qui agit dans le prêtre. Ceci est mon corps. À ce moment-là, il y a le feu qui descend hein, et qui fait que nous avons la victime, l'agneau de Dieu qui est là. La parole du prêtre eh bien, fait descendre le feu de Dieu qui vient à cette parole-là. Et toute cette eau sur l'autel représente en fait tous les péchés que l'on dépose hein, sur l'autel en début de messe, et tous les péchés du monde, et on sait que cet amour de Dieu, eh bien, il est vainqueur. Hein, il pardonne, et c'est sa miséricorde qui est infiniment plus grande. Et donc, nous avons comme une préfiguration de ce qu'on appelle la messe. Hein, la messe où c'est Dieu qui descend avec sa victoire sur le péché. Première partie, voilà, dans cette vie hein, d'Élie. Et puis juste ensuite, alors il va tuer tous les prophètes de Baal. Alors, on va dire, c'est pas très bien, il va tous les égorger. Il en égorge 400. Je sais pas comment il a fait pour tout seul arriver à égorger 400 prêtres. Alors, l'interprétation des pères de l'Église, c'est que, avec le démon, il faut y aller comme ça. On égorge, alors on peut pas égorger le démon, mais il faut lutter avec hargne, détermination, contre le mal et tous les démons et tous les vices et tout ceci. Hein. Il faut avoir le même zèle que Élie avait pour ses prêtres de Baal, nous avec le mal et tous ces voilà. Alors, ensuite, il est dans le désert seul et voilà qu'il commence à s'évanouir, il a faim et soudain, j'en peux plus. Seigneur, fais-moi mourir, mieux vaut pour moi mourir que... Et à ce moment-là, eh bien, il y a un ange qui lui montre une nourriture mystérieuse, hein, et il dit « mange, hein, comme ça, sinon la route sera trop longue ». Et donc nous, c'est bien sûr l'Eucharistie, où nous avons cette nourriture qui nous est donnée chaque dimanche. Hein, plus si on peut l'avoir tous les jours, même si on veut. Et Dieu nous dit « mange, sinon le chemin sera trop long, hein, sinon on aura du mal à persévérer ». Et troisième expérience, après ça, donc c'est la communion, il va dans cette grotte, et vous savez, il fait une expérience spirituelle, où Dieu, il y a d'abord un tremblement de terre, Dieu n'est pas dans un éclair, Dieu n'est pas dans l'éclair, un tonnerre, je sais pas quoi, Dieu n'est pas dans le tonnerre, et souvent une petite brise légère, à peine ressentie, et Élie se met à genoux, hein, et il est renouvelé, je suis rempli d'un zèle jaloux, il est renouvelé dans sa mission d'être prophète et d'annoncer et de prêcher hein, l'Alliance. Et donc, c'est une expérience d'adoration, vous voyez, où il n'y a rien qui tremble hein, dans l'adoration. Tout est vraiment la douceur même, même si très souvent on ne ressent rien du tout et on ne va pas pour ressentir. Hein, voilà, quand quelqu'un dit « j'arrête d'adorer parce que je ne ressens rien », non, on ne va pas chercher à ressentir, on va chercher Dieu. S'il veut me donner des grâces qui touchent ma sensibilité, merci Seigneur. S'il ne veut pas me les donner, merci Seigneur. C'est qu'il fait, mais il agit toujours. Hein, mon Père et moi agissent toujours. Alors, donc, vous voyez, ces trois dimensions qu'Élie expérimente, ce sont les trois dimensions de l'Eucharistie. Le sacrifice, la messe, la communion, le banquet, la présence. Hein, voilà. Et donc, c'est notre alliance. Donc, vous voyez, nous, on a besoin de vivre ces trois dimensions de notre foi, comme Élie l'a vécu, hein, et Jean-Baptiste va nous inviter à vivre ceci. Alors, nous avons Jean 20 proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés, comme il est écrit au livre des paroles d'Isaïe le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne ou colline sera abaissée, les passages tortueux deviendront droits et les chemins raboteux seront nivelés, toute chair verra le salut de Dieu. » En d'autres mots, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il veut ramener ce peuple. Alors là, je reviens à Jean-Baptiste, hein, avec l'esprit d'Élie hein, pour l'Alliance. Il veut ramener ce peuple à Jésus, voilà, et donc il va prêcher un pardon des péchés. Parce que le pardon des péchés...
Est-ce que vous avancez un peu ?
Oui. Je vais tomber. Oui. Bon, je ne vais pas tomber loin. Ah oui, alors là, c'est quand même limite. Hein. Je ne sais pas ce que ça aurait fait. Ça aurait été une bonne petite humiliation. Merci. voilà, et alors, très souvent, voilà, Jean-Baptiste enlève les montagnes, il comble les ravins. C'est-à-dire qu'il va accompagner ce peuple jusqu'à Jésus. Et ça, c'est notre mission hein, que nous devons faire de missionnaires. Souvent, pour les gens, il y a une montagne qui les empêche de rentrer dans l'Église à travers des questions. Il y a un ravin, hein, c'est-à-dire un sentiment d'indignité. Combien de fois je rencontre des gens qui me disent « Mais moi, je ne suis pas digne de rentrer dans une Église. » Mais moi, ça me rend fou. Hein, ça nous rend fou d'entendre des gens qui disent ça. Au contraire, c'est vrai que personne n'est digne. Hein, on est tous, mais on n'est pas du tout à la hauteur. Mais s'il nous invite, il nous appelle, il faut y aller. C'est lui qui nous invite. Eh bien, c'est là où nous, on doit aller les chercher, hein, combler les ravins, enlever les montagnes. Ça, c'est tout ce que Jean-Baptiste fait. C'est tout notre travail à travers les différentes activités. Je sais qu'ici, vous faites des soirées d'évangélisation. Il y a plein de choses, les cellules, etc. Mille manières d'essayer, vous voyez, d'enlever les blocages que les gens se mettent pour aller à Jésus. Voilà. Et alors, Jean-Baptiste, ensuite, eh bien, c'est celui qui est le témoin par excellence. À trois reprises, on dit « Est-ce que tu es celui qui doit venir ? Je ne suis pas. Qui es-tu ? Je ne suis pas. » Sa personne, il dit « Je ne suis pas. » Ça veut dire qu'en fait, tout son être, il est en fait décentré de lui-même, mais il va être centré vers Jésus. Et lui, Jésus, quand on dira « Qui es-tu ? Je suis. » Hein, je suis. Alors il dit je suis, c'est le je suis, c'est le nom de Dieu, hein, qui est le nom du buisson ardent, vous savez, de Dieu au buisson ardent. Et puis ensuite les titres, je suis le pain de vie, je suis la vigne, je suis la porte, je suis la lumière du monde, je suis le bon berger, je suis, voilà, les sept, la résurrection, la vie, le chemin, etc. Et donc Jean-Baptiste, c'est le témoin. Le témoin, c'est en gros, c'est pas moi qui suis important, mais moi je suis là pour vous conduire vers celui qui est important. Je suis rien, mais lui, il est tout. C'est ça le témoin. Hein. Et Jean-Baptiste nous aide hein, à comprendre que je n'ai pas la solution. Hein. Ce n'est pas moi la solution de votre problème, mais c'est Jésus. Allez le voir. Et donc Jean-Baptiste, on le trouve à travers cette expérience très belle où il est dit, au moment où Jésus arrive, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alors, à ce moment-là, il est sur le bord du Jourdain, il baptise les foules, et soudain, voici. Mais le voici, ici, c'est pas « tiens, chouette, il est là ». Non, c'est un voici, c'est un accomplissement. Il est enfin là, celui qui était tant attendu. Alors, qui est tant attendu ? Il faut, pour comprendre cette parole, vous savez, c'est toujours l'Ancien Testament qui éclaire le Nouveau Testament, le Nouveau qui réalise l'Ancien. Et donc, 2000 ans plus tôt, qu'est-ce qui se passe ? Il y a Abraham qui monte sur la montagne avec son fils Isaac, hein, et Abraham lui a dit, ton fils, hein, le fils de l'Alliance, va me l'offrir en sacrifice. Voilà. Et donc Isaac, il est où ? Hein, l'agneau là, qui va mourir, c'est qui la victime ? Hein, celui qui va mourir. Et donc il y a cette question très énigmatique, il ne voulait pas mourir Isaac, hein, 2000 ans avant. Et un peu la question existentielle, on voit bien que tout seul, on ne peut pas se sauver, mais il faut qu'il y en ait un qui prenne le péché du monde. Il faut qu'il y en ait un voilà, qui me donne la vie éternelle. Il est où ? Et Abraham répond, Dieu va le donner, celui qui va mourir, pour que j'ai la vie. Pour que, en gros, celui qui va répondre à ma soif existentielle, à mes besoins profonds, au sens de je ne sais pas quoi, de tout. Voilà. Et donc, Dieu va le donner. Vous voyez, Dieu a pris un peu le temps, 2000 ans. Bon, bah oui, c'est comme quoi, vous voyez, t'entends, il ne faut pas se presser. Hein. Si Dieu n'exauce pas, il surexauce. Mais là, pendant 2000 ans, on a attendu quelqu'un, un sauveur. Et c'est Jean-Baptiste qui répond à Abraham, 2000 ans plus tard. Il est là, Abraham, l'agneau de Dieu qui va prendre le péché du monde. Ce péché qui détruit mon cœur, qui détruit les relations avec Dieu, avec les autres, avec moi. Et qui m'envoie hein, dans la tombe, le salaire du péché, c'est la mort, hein, c'est ce que nous dit saint Paul, eh bien, c'est lui qui va l'enlever, hein, ou qui va faire que la mort, eh bien, ça va être au contraire une libération, un passage vers l'au-delà, où je pourrai aller au ciel. Donc, ensuite, c'est intéressant, hein, Jean-Baptiste, dans ce passage, il est avec Jean et Jacques, il a deux disciples, et... ils vont suivre, il va les envoyer, alors je ne sais plus si c'est Jean ou Jacques, enfin il y en a deux, et ils vont suivre Jésus pendant une journée, et ils vont dire à Jésus, où demeures-tu ? Pourquoi où demeures-tu ? Parce que si vous voulez connaître quelqu'un, c'est bien d'aller voir où il habite. Quand on voit où il habite, hein, on peut déjà connaître pas mal de choses. Hein, où demeures-tu ? Et Jésus dit, venez et voyez. Vous vous souvenez cette réponse un peu, alors cette fois c'est Jésus qui est un peu énigmatique, cachotier, on pourrait dire, venez, voyez, voir quoi ? Alors on lit l'évangile, venez, voyez, mais alors on voit rien et on ne sait pas, mais ça nous renvoie. On nous dit juste un petit détail, c'était la quatrième heure, 16h de l'après-midi, 4h de l'après-midi. Alors on peut se dire, on s'en fiche, 4h de l'après-midi, que ce soit 3h, 4h, 5h, c'est vraiment pas ce qui nous importe. Mais on sait bien qu'avec saint Jean, tous les petits détails renvoient, qu'est-ce qui s'est passé à 4h de l'après-midi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, à 4h de l'après-midi, on sait qu'à midi, Jésus a été élevé sur une croix. À 15h, il a remis hein, son dernier souffle. Père, pardonne-leur. Hein, voici, tout est accompli. Et ensuite, alors est-ce que c'était une heure exactement ? Mais après, on sait qu'un soldat hein, eh bien, en fait, a pris sa lance et a transpercé hein, ce cœur de Jésus. Et de ce cœur a jailli l'eau et le sang, la transfixion. Et à ce moment-là, eh bien, en fait, ce 16 heures, Jésus renvoie vers son cœur transpercé sur une croix. Vous voyez ? Et en fait, où demeures-tu ? Où trouver ce Dieu ? Venez le voir dans mon cœur. Hein ? Le cœur de Jésus. Et ce cœur, c'est un cœur qui prend bah, la lance, le coup de lance, c'est le mal, l'ingratitude, la haine, et qui donne en retour L'eau, le sang, c'est le baptême, c'est l'Eucharistie, c'est l'Église, hein, c'est toute la vie de Dieu qui est la réponse, eh bien, à l'ingratitude de l'homme. Et alors, en même temps, Jésus, sur la croix, il a, vous savez, sa couronne d'épines, et comme on dit, la boucle est bouclée, parce que quand Abraham monte sur la montagne, c'est pas Isaac qui va être sacrifié, c'est un signe du Fils, hein, mais c'est un agneau, un bélier qui avait les cornes dans un buisson, hein, pour montrer qu'en fait, c'est bien Jésus sur la croix, hein, qui est celui qui était attendu et qui nous renvoie vers son cœur. Et ce cœur, eh bien, dans la liturgie, on le vit tout ça parce que lorsque le prêtre élève l'hostie, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, nous sommes appelés à contempler l'agneau. L'agneau, c'est l'hostie, et l'hostie, c'est le cœur de Jésus. Et donc ici, on a en fait, à travers cette parole de Jean-Baptiste, qui on reprend à chaque messe, eh bien, de comprendre, c'est lui Jésus, c'est cette petite hostie-là qui est la solution à tous mes problèmes. Et quand je viens adorer le Seigneur, eh bien, c'est là que je vais déposer au pied du Seigneur mes problèmes, mes soucis. Et le Seigneur m'entend, il m'aime, il me connaît, et c'est lui qui va répondre à sa manière, quand il veut, comme il veut. Mais c'est lui la solution, c'est pas moi, hein, c'est pas le pape François, c'est pas je ne sais qui, c'est Jésus. Et donc Jean-Baptiste, il est là, il envoie vers l'agneau. Et donc nous sommes appelés, nous, un, à y aller, et deux, à savoir que c'est là qu'on trouve la réalisation, la réponse, tout simplement, hein, à nos questions. Alors ensuite, il y a quelque chose de très beau dans Jean-Baptiste, cette phrase en Jean 3, « Qui a l'épouse et l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend est ravi de joie à la voix de l'époux, telle est ma joie, elle est complète. Il faut que lui grandisse et que moi je décroisse. » Alors c'est intéressant. Alors c'est un vocabulaire très spirituel, là. Il y a l'époux, l'épouse et l'ami. Alors qui est qui? Donc l'époux, c'est facile, c'est Jésus. Bon, ça, facile. L'épouse, c'est qui au temps de Jean-Baptiste? C'est tout ce peuple. Et la mission de Jean-Baptiste, c'est de faire que ce peuple, le peuple dans la Bible, c'est au féminin, devienne non pas le peuple rebelle, désobéissant, qui a abandonné la loi, mais devienne l'épouse fidèle. Et donc c'est pour ça qu'il prêche le baptême du pardon des péchés, pour enlever le péché, parce que le péché, c'est ce qui éloigne l'épouse de l'époux. Hein. Et donc il prêche ce baptême pour que l'épouse aille à l'époux, et lui se présente comme l'ami de l'époux. C'est-à-dire que sa mission, eh bien, c'est d'aider l'épouse à aller à l'époux, en gros. Hein, voilà. Alors, nous, on peut voir la même chose. L'époux, c'est Jésus, hein, dans l'Eucharistie. Il est là. C'est le sacrement du don, hein, de la fécondité divine, qui me donne la vie divine, qui me donne la... Voilà. L'épouse, eh bien, c'est qui? Ça peut être l'âme, vous. Quand vous êtes devant le Saint-Sacrement, votre âme est épouse et elle se laisse épouser par le Seigneur. Le Seigneur dépose sa volonté, dépose sa force, il vient nous consoler, il vient nous guérir, il vient nous secouer, il vient nous je ne sais pas quoi, hein, il sait ce qu'il fait, il fait ce dont on a besoin. Ou alors l'épouse, si vous êtes responsable, hein, de l'adoration, il y en a qui ont des responsabilités d'équipe, de division, de coordination, eh bien ce sont ce petit groupe d'adorateurs qui vous sont confiés. Et vous êtes là pour aider ce petit groupe d'adorateurs, eh bien, à venir adorer fidèlement le Seigneur. Et c'est vrai que ce n'est pas facile d'être les responsables de l'adoration, parce que, bon, alors, moi, je ne peux pas venir, je n'ai pas trouvé personne, qu'est-ce qui va me remplacer, voilà. Et alors, en fait, on est tantôt, on va dire, épouse, quand je viens adorer, c'est-à-dire je vis cette alliance nuptiale avec Jésus, c'est un cœur à cœur avec le Seigneur. Et tantôt, je suis l'ami quand je suis comme Jean-Baptiste, c'est-à-dire le témoin qui va inviter les gens à se fidéliser dans cette rencontre hebdomadaire. Si vous êtes responsable, eh bien, vous êtes l'ami, c'est-à-dire vous aidez les gens à être avec Jésus, hein, ou en tant que témoin dans la vie tout court, vous êtes l'ami. C'est-à-dire qu'il y a une âme, il y a l'époux, et vous êtes l'ami qui va inviter l'épouse, hein, à aller à l'époux. C'est ça, tout simplement, pour Jean-Baptiste. Et il dit, eh bien, ma joie est complète. Certes, c'est pas facile, mais il y a une vraie joie, hein, et on en fait l'expérience dans l'évangélisation. dans tous les services, il y a une joie. Même si tu entends, il y a aussi beaucoup d'ingratitude, de souffrance, parce que voilà, mais il y a une vraie joie. Et donc Jean-Baptiste dit, il faut que je diminue pour que lui grandisse. C'est ça notre vocation. C'est vrai qu'être responsable de l'adoration, c'est pas toujours très flatteur, c'est assez ingrat. Hein. Souvent, on s'en prend plein la figure avec des gens qui nous renvoient en disant « Oui, mais si c'est ça, je vais arrêter, etc. » Mais en même temps, vous voyez, certes, on diminue, mais dans le but que Jésus soit plus aimé par les gens, voilà, en tant que témoin, en tant que Jean-Baptiste, en tant qu'ami. Hein. Donc, tantôt, je suis ami quand je suis témoin, comme Jean-Baptiste, et je fais tout, je diminue, je souffre s'il faut, j'aime, je prie, j'invite les gens. Et tantôt, je suis épouse hein, quand je suis cette fois, moi, devant le Seigneur. Alors ensuite, il y a un petit passage qui est très beau. Hein, Jésus dit, il parle de Jean-Baptiste. « Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Un autre témoigne de moi et je sais qu'il est valable le témoignage qu'il me rend. Vous avez envoyé trouver Jean. » Il a rendu témoignage à la vérité, non que je relève du témoignage d'un homme, si j'en parle, c'est pour votre salut. Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. C'est comme si Jésus, qui est la lumière avec un grand L, il choisit des petites lumières pour rendre témoignage à la grande lumière. C'est bizarre quand même. Hein ? En d'autres mots, dans l'Eucharistie, Jésus pourrait nous faire un bon miracle eucharistique. Une grande lumière, quand quelqu'un rentre dans la chapelle d'adoration, vous avez une lumière comme ça, dans toutes les couleurs, le Saint-Sacrement qui bondit de joie. Hein, c'est le Seigneur qui est content quand vous allez le voir. Ou alors vous voyez le visage de Jésus. Alors c'est vrai, il y en a qui ont des révélations privées, alors c'est plus à garder au niveau personnel. Hein, mais voilà, où ils peuvent voir quelque chose. Et le Seigneur pourrait en fait, par lui-même, suffisamment rayonner, montrer un petit chouïa, un micro, hein, un mini rayon de sa grande gloire, pas trop, parce que sinon on en mourrait, hein. De toute façon, voilà, on ne peut pas voir Dieu sans mourir, c'est au ciel qu'on pourra voir Dieu face à face, mais il pourrait se rendre témoignage tout seul. Mais il choisit Jean, la petite lumière qui lui, comme nous dans l'église, on a une petite lumière qui lui à côté du tabernacle, là, il y a Jésus, il y a la vraie lumière, c'est beau. Et quand on rentre dans une église, première chose qu'on fait normalement avant de regarder les peintures, voilà, c'est on cherche, elle est où la lumière ? Parce que je ne sais pas dans quel tabernacle Jésus est. Donc normalement, on rentre, on cherche la lumière, tac, la lumière est là, hop, on sait qu'il y a Jésus qui est là, on fait une génuflexion, et après on fait sa petite visite ou je ne sais pas quoi. Hein ? Eh bien, sachez que voilà, c'est Jésus choisit les petites lumières que vous êtes, hein, les Jean-Baptiste, c'est vous, des toutes petites lumières, pas très grandes, mais vous êtes appelés à briller un petit peu auprès des gens et à amener à la lumière qui est Jésus et Jésus dans l'Eucharistie. Hein, c'est ça la vocation de Jean-Baptiste qui est notre vocation. Et enfin, Jean-Baptiste, voilà, il en perd la tête. On sait que, bah oui, il va finir décapité, ça finit mal pour lui. Nous aussi, hein, est-ce qu'on en perd la tête quand on est adorateur du Saint-Sacrement ? Je sais pas, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, voilà, après, il y a un témoignage qui coûte. Hein, c'est-à-dire que le témoignage, ce n'est pas simplement un tweet, parti, c'est bon, j'ai fait mon témoignage, hein, ou un petit SMS, un petit email, tac, tac, c'est bon, maintenant je peux partir en vacances. Non, il y a un moment où il faut y aller, quoi, hein, c'est le 1 à 1, et on sait que l'évangélisation, c'est le 1 à 1, hein, et il faut aller voir la personne, il faut lui parler, et il faut se mouiller, et on s'en prend plein la figure. Il y a une certaine forme de radicalité, évidemment, hein, dans notre vie chrétienne, on le sait bien, pour que notre vie témoigne. Après, sans forcer, hein, il ne faut pas forcer, parce que si on force, c'est nous-mêmes, c'est plus Jésus. Mais de temps en temps, Jésus, il m'envoie un peu en eau profonde. Hein, et là, c'est un peu impressionnant, mais c'est là où on trouve une vraie joie. Et c'est là où ça nous coûte, mais c'est là hein, toute la fécondité de notre vie. Alors, ça, c'était la première partie, je ne sais pas où j'en suis au point de vue timing, il y a un chronomètre ici, ça va. Je vais prendre encore à peu près 20 minutes hein, pour parler du livre de l'Apocalypse. C'est en lien indirect avec la mission de Jean-Baptiste, mais ce que je voulais déjà, hein, bon, parce que voilà, j'essaie d'être obéissant, on m'a demandé de parler de Jean-Baptiste, donc j'ai parlé de Jean-Baptiste, prenez-le comme modèle. Dans votre vie d'adoration, on a dit adorateur du Verbe incarné, il passe du temps hein, à une carême, là, quand Marie est là, avec Marie. Priez la Vierge Marie, laissez Marie vous guider, soyez ensuite ses témoins, et, bon, enfin, je ne vais pas refaire tout ce que j'ai dit, hein, voilà. Donc, priez Jean-Baptiste pour vous aider à être des bons témoins, des adorateurs qui aiment Jésus et qui rayonnent hein, joyeusement, et même si on peut en souffrir, parce qu'on souffre toujours quand on aime, hein, vous le savez tous, eh bien, on sait bien qu'on trouve une joie, et qui n'est pas la joie du monde, mais qui est la joie de Jésus. Alors, l'Apocalypse, je prends ce deuxième point parce que ça nous aide à comprendre ce qui se passe hein, dans l'adoration. On ne voit rien, je l'ai dit déjà un petit peu. On a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Ça ne bouge pas. Qu'est-ce que je fais là hein? Et moi, ce que j'aime bien dans l'adoration, c'est que ce n'est pas obligatoire. Nulle part, il est écrit, il n'y a pas de précepte de l'adoration eucharistique. Il y a le précepte dominical. Un catholique doit aller à la messe le dimanche. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est notre catéchisme qu'on a appris quand on était enfant. Et si on ne va pas à la messe le dimanche, ce n'est pas bien. Voilà. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on ira en enfer, on le sait bien. Hein, voilà. Mais quand même, c'est voilà, la messe le dimanche, on en a besoin. C'est Jésus qui nous invite et il faut aller à la messe. Alors ça, c'est le précepte. En gros, c'est un commandement de Dieu, mais qui est pour nous une invitation de vie. Hein. Si on va à la messe, c'est pour avoir la vie, hein, voilà, et pour entendre la parole et pour vivre notre foi ensemble. Mais dans l'adoration, ça n'existe pas. Il n'y a pas de précepte. Il faut adorer le Saint-Sacrement une heure par semaine, le 11e commandement ou le 12e. Et donc, ça veut dire que ça fait partie de toutes ces formes de prière que le Seigneur nous donne, qui renvoient quand même au premier commandement, n'oublions pas, premier commandement, tu adoreras le Seigneur, à lui seul, tu rendras un culte. Le premier commandement dans la Bible, c'est l'adorer. Alors écoute, certes écoute, dans ce sens que Dieu va te dire, parce que sans Dieu, on ne peut pas savoir. Mais c'est ça, c'est l'adoration. Hein, l'adoration dans la Bible qui est présentée comme un devoir de justice. Hein, quand on parle de justice, nous, on pense à la justice sociale. Alors, c'est essentiel, la justice sociale. Sans justice, pas de paix. Mais il y a la justice divine. C'est quoi? C'est avant la justice sociale, c'est reconnaître Dieu comme Dieu. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas plus grand que Dieu. J'existe parce que Dieu me maintient en existence. Et donc, dans la Bible, j'adore parce que c'est mon créateur. Mais on va plus loin. Je n'adore pas simplement comme créature mon créateur, mais je suis, grâce au baptême, un enfant d'un père ou l'épouse de l'époux. Hein, c'est ça qui est beau, bien sûr. Un jour, je raconte souvent cette petite anecdote, ça me fait rire quand j'y repense. J'étais tout jeune prêtre et j'étais à Lille. Vous voyez où c'est, Lille? D'ailleurs, votre évêque, il vient de Lille. Et un jour, il y avait une jeune journaliste, elle devait être stagiaire, elle n'avait pas trop fait de théologie. Je lançais l'adoration là-bas, à Lille, et elle me dit, j'étais en direct sur RCF. Alors, et elle me dit, mon père, est-ce que l'adoration du Saint-Sacrement, c'est pas comme l'adoration du veau d'or? Alors ça, c'est la question. Alors, il faut prendre son souffle, réfléchir un peu, on n'a pas beaucoup de temps quand même, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, et voilà. Et alors, voilà, moi, je lui ai dit, écoutez, si vous adorez l'ostensoir, là, oui, c'est l'adoration du veau d'or. Mais si vous adorez celui qui est dans l'ostensoir, là, c'est le premier commandement. Hein, et tu adoreras le Seigneur, à lui seul, tu rendras un culte. C'est-à-dire, nous adorons Dieu, mais ce Dieu, il s'est incarné. Hein, il est venu, c'est Jésus notre Dieu. Et c'est Jésus qui dit, nul ne peut adorer Dieu sans passer par moi. Pour adorer Dieu, j'adore Jésus. Hein, et je rentre dans l'adoration de Jésus, dans la prière. C'est Jésus qui prend ma prière, mon cœur, et qui me conduit à Dieu, et qui me comble de l'Esprit Saint. Toujours ce mouvement trinitaire, qu'on a, le prêtre élève à la doxologie l'hostie, par lui, là, Jésus, dans la petite hostie, qui est vivant, qui prie Dieu, à toi Dieu, hein, dans cette unité du Saint-Esprit. Donc c'est par Jésus que je vais rencontrer, c'est Jésus qui me prend tel que je suis, qui me conduit au Père, je ne peux pas aller au Père sans passer par Jésus, et dans ce mouvement, je reçois une effusion d'Esprit Saint. Il y a l'effusion ressenti, c'est la Pentecôte, les actes des apôtres, ça secoue, ça bouge, de temps en temps on vit ça dans un groupe de prière, etc. Et puis après il y a la Pentecôte joannique qu'on a dans tout l'évangile de Saint Jean qui n'est pas ressenti. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, celui qui croit, qu'il voit. Où il remit l'esprit, il met une soif dans le cœur, et c'est l'Esprit Saint qui vient la combler. Donc il y a toujours ces deux Pentecôtes qu'on vit dans l'Eucharistie. On peut vivre une expérience charismatique dans le sens du mot, hein, où on est bousculé vraiment par une communion, par un temps d'adoration, c'est beau, c'est magnifique, et on se dit c'est incroyable. Et de temps en temps, c'est le désert. Généralement, c'est toujours le désert. Hein. Si c'est pas toujours le désert, il y a un problème, d'accord ? Là, il faut en parler à votre curé si c'est toujours du ressenti. S'il y en a un peu, tant mieux, mais quand il n'y en a pas, c'est normal. Voilà. Alors, bon, je ne sais plus pourquoi j'ai fait toute cette parenthèse-là, mais je reviens à l'Apocalypse parce que le temps passe. Apocalypse, ça veut dire, c'est pas la guerre des étoiles, hein, Star Wars, voilà, l'épisode 25, c'est le livre de la révélation. L'Apocalypse, c'est une révélation. C'est-à-dire qu'il y a un mystère caché qui va être révélé, qui va être dévoilé. C'est un dévoilement. Vous voyez, comme il y a une belle statue, on enlève le voile et d'un coup, waouh. Hein? Donc c'est comme un plan caché, quelque chose qui est caché là et qui d'un coup s'est révélé. Hein? C'est ça l'Apocalypse. Donc c'est une révélation, un dévoilement. Voilà. Alors, ce livre utilise, alors je fais de l'ultra synthèse, des symboles qui tantôt sont déroutants parce que vous avez des sauterelles avec des grosses dents qui vont manger trucs, avec des je sais pas quoi, des toutes sortes d'insectes étranges là qui arrivent. Bon, bref. Mais à travers tous ces symboles, il y a un grand combat entre le bien contre le mal. Hein. On peut dire un combat, si on va plus loin, entre l'agneau qui va être sur le trône et toutes les autres bêtes qui s'opposent à l'adoration de l'agneau. Le diable, le dragon, le léopard, le je sais pas quoi. Hein. Donc, en fait, c'est un combat entre le bien contre le mal, entre Jésus contre toutes les forces de l'enfer, mais surtout c'est un livre d'adoration qui est toujours centré autour d'un trône. En gros, qui va être sur le trône ? C'est Dieu, mais Dieu c'est l'agneau. L'agneau pour nous c'est l'Eucharistie. Alors, tout ce qu'on dit sur l'Eucharistie, c'est d'abord la messe et ensuite l'adoration. Tout ce que je dis sur l'adoration, on le dit d'abord pour la messe, hein, mais on prolonge dans l'adoration. Et est-ce que c'est l'agneau qui va être sur le trône ? Ou est-ce que c'est le diable ? Hein, ou les idoles ? Ou moi ? T'entends, je m'y mets. Hein, après tout, c'est sympathique de me mettre sur le trône aussi, de me faire adorer ou de me mettre au centre du monde. Voilà. Et donc, c'est tout ce grand combat spirituel qui est manifesté à travers des symboles, à travers de toutes sortes de signes très forts, et qui renvoie, c'est un grand livre d'encouragement des premières communautés chrétiennes qui étaient tellement persécutées. De temps en temps, on se dit qu'on est persécuté. C'est vrai qu'on peut vivre des humiliations, souvent très fortes, dans nos familles. Mais quand même, quand on voit les persécutions des premiers chrétiens qui étaient envoyés dans les arènes, voilà, il y avait des persécutions qui étaient quand même incroyablement plus violentes et dramatiques que nous, même si elles peuvent être très sournoises, hein, pour nous quand même. Il ne faut pas non plus les réduire, hein, les humiliations qu'on a quand on veut être chrétien, hein, qu'on veut vivre notre foi chrétienne. Alors, on voit un agneau immolé qui est debout. Alors, c'est bizarre. Quand vous êtes immolé, ça veut dire que vous êtes mort. Quand on est mort, on est par terre. Mais là, il est debout. L'agneau immolé, il est à la fois immolé et en même temps, il est debout. Donc ça, c'est le signe de l'Eucharistie. Parce que dans l'Eucharistie, j'ai Jésus qui est mort, qui a donné sa vie, son amour jusqu'à la mort, mais qui est ressuscité. C'est-à-dire que c'est celui qui est mort, mais qui est vainqueur de la mort et qui est debout. Donc vous voyez, ce symbole, c'est toujours l'agneau immolé, égorgé, debout. Vous voyez, donc c'est l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, vous avez Jésus, hein, qui a donné sa vie sur la croix et qui est là, ressuscité. Il se tient là. Tous les récits de la résurrection, il se tenait là, debout, hein, au milieu de son peuple. La paix soit avec vous, je pardonne vos péchés, etc. Et alors ensuite, on est dans l'Apocalypse, toujours dans un royaume qui est à la fois déjà là, mais pas encore manifesté. On est entre deux. On est entre la croix où Jésus a vaincu le démon. Il est mort, il est ressuscité. Il a gagné la victoire. Et le moment où cette victoire sera pleinement manifestée. Hein, parce que les athées, ils disent, mais ça a changé quoi, la croix, la résurrection? Ça n'a rien changé, le monde a toujours autant de problèmes, et il y a toujours autant de difficultés, de guerres, de haine, de violence, de martyrs, de massacres et de tout ce qu'on veut. Et donc les athées, ils disent, votre croix, ça n'a rien changé. Alors que nous, on sait que c'est de l'intérieur, hein, c'est une bataille au niveau de l'être, de l'intérieur, dans l'être même, dans le cœur, Jésus a déposé une victoire. Mais cette victoire, on est entre la croix, on sait que la victoire est gagnée. En gros, on a gagné, hein, les amis. C'est bon, hein, on peut se réjouir. Hein, on est gagné, on est ressuscité. On a déjà cette promesse qui est là en nous. Mais en même temps, ça tarde à se manifester. Vous voyez, ça ne se voit pas encore. La victoire, on l'a, mais on n'a pas encore le. Alors, on est toujours entre ces deux. Hein, et tout l'Apocalypse, c'est toujours cette double réalité. À la fois, quand je suis baptisé, Jésus est vainqueur, il est ressuscité, j'ai cette vie nouvelle, mais en même temps, je suis au milieu de toutes ces épreuves, ces souffrances de la vie de tous les jours. Donc, ce thème est là. Et alors, on voit le Fils de l'homme qui vient sur les nuées. Alors, c'est quoi les nuées? C'est au tout début de l'Apocalypse. Les nuées, ce n'est pas le nuage. Souvent, on pense que Jésus, il y a un nuage qui passe, et hop, il monte sur le nuage. Et il part sur un nuage dans le ciel. Non, le nuage, la nuée, pardon, dans la Bible, hein, c'est cette présence de Dieu qui est là, qui est cachée, hein, qui est au cœur de son peuple, mais qui est cachée. Et donc, on voit dans l'Ancien Testament, Dieu descend dans la nuée, dans le temple, où il conduit le peuple dans le désert, dans la nuée, le jour et la nuit, dans la colonne de feu. Donc c'est un Dieu qui est caché, qui est au milieu de son peuple, mais qui se cache sous la nuée. Et donc pour nous, quand les disciples voient Jésus qui part, il dit « Je suis avec vous hein, ». Il promet, il dit « Je suis avec vous pour toujours » et il partit dans les nuées. Ça veut dire que Jésus part, on peut dire, alors il y a deux types de nuées, alors on peut en voir plus, mais la première nuée c'est les apparences du pain, c'est-à-dire Jésus naît. Il est certes monté au ciel, mais il est là au milieu de son peuple, sous la nuée qui est les apparences du pain. Hein, il ne nous a pas quittés. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc dans la nuée, j'ai Jésus. Hein, voilà. Et puis en même temps, l'autre nuée, c'est bien sûr, c'est notre humanité. Où il faut arriver à reconnaître, comme disait Mère Teresa, Jésus hein, dans le prochain, sous le masque souvent affligeant des personnes les plus difficiles à aimer. Et donc il y a ces deux nuées, hein, et on passe toujours d'une nuée à l'autre nuée, mais Dieu, il n'est pas parti, il est là avec nous. Hein, et voilà. Alors, je suis hein, l'Apocalypse, je viens sur les nuées, donc il vient à nous dans, j'ai envie de dire, dans l'Eucharistie, mais aussi dans mon prochain, hein, toujours. Leur sainte devant Jésus dans l'Eucharistie me conduit à leur sainte avec mon prochain. Ça, c'était Mère Teresa. Elle passait deux heures tous les matins à adorer le Saint-Sacrement et ensuite aller chercher Jésus dans le prochain. Donc, il vient sur les nuées, il nous a aimés et nous a lavé les péchés par son sang. C'est important, au tout début du livre de l'Apocalypse, il nous a aimés. C'est-à-dire, tout ce qu'il a fait, c'est par amour. Parce que quand on regarde l'Apocalypse, on se dit, oh là là, il y a de la violence, il y a de la guerre, il y a du sang, ça gicle partout. On se dit, mais c'est quoi ce truc horrible, épouvantable? Non, c'est vraiment un livre d'amour, parce que Dieu ne fait, il agit que par amour. Il ne peut pas faire autre chose que de nous aimer. Mais encore une fois, il y a des symboles déconcertants qui expriment cette bataille, qui peut être très violente, entre le bien et le mal. Et alors, il était, il vient. C'est beau. Celui que vous avez là, dans la petite hostie, c'est celui qui était dans celui... Quand vous ouvrez l'évangile, vous avez le « il était ». C'est le Jésus qui a fait ceci, qui a dit cela. C'est quelque chose qui est passé, mais comme on dit, c'est pas des événements passés, fixés dans le temps. C'est la parole vivante et l'Eucharistie, c'est Jésus vivant aujourd'hui qui continue pour vous, pour moi, ce qu'il a fait dans l'Évangile, pour Marie-Madeleine, pour Saint-Jean, pour les pharisiens, pour les scribes, pour les possédés, les je ne sais pas quoi. Donc, il est vivant là devant moi, il est au présent, et il rend présent tout ce qu'il a fait, il va le faire pour moi. Et donc, je vais regarder comment les amis de Jésus ont aimé Jésus, comment ils se sont tenus, comment ils ont parlé, comment ils ont agi, et je vais faire la même chose parce que j'ai le même Jésus. Alors on dit, eux, c'était facile, ils voyaient. Non, ils voyaient rien du tout. Ils voyaient un homme, mais pour eux, ils n'avaient pas le credo Nicée-Constantinople, Jésus, fils de Dieu, sauveur du monde, ressuscité. Ils avaient un brave homme qui est un fils de charpentier. Donc il fallait la foi, pareil que nous, hein, quand on est devant le Saint-Sacrement. Alors peut-être un peu différente, mais c'était quand même, ils avaient besoin d'y croire. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont passés à côté et qui ont même rejeté Jésus. Donc il était et il vient, c'est-à-dire qu'un jour... Je reviendrai dans les nuées, hein, certainement qu'un jour, on ne sait pas comment, mais je pense qu'au retour du Christ dans sa gloire, eh bien, tout le monde le verra dans l'Eucharistie. Hein. Et donc dans la Bible, dans l'Apocalypse, on voit le Seigneur qui revient sur les nuées. Comment ça se passera? Je ne peux pas vous le dire, personne ne sait. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est possible que cette présence cachée, un jour, soit visible, hein, et ça sera... Dans l'Apocalypse, la plus grande joie pour ceux qui l'ont suivi, qui ont suivi l'agneau partout où il va, et ceux qui l'ont rejeté, ils demandent, dans l'Apocalypse, ils demandent aux montagnes de les recouvrir. Hein, ils vont dans les cavernes, ils vont là où c'est la nuit, parce qu'ils ne supportent pas cette lumière. C'est un combat de lumière qui se révèle. Alors déjà aujourd'hui, un jour, bon, on verra hein, dans la fin des temps, ça on n'y est pas encore, on ne sait pas quand ça se passera. Voilà. Alors... Il était, et ensuite il y a 7 lettres qu'il donne aux églises, mais en fait ça représente toutes les communautés, toutes les paroisses. Avec les 7, vous avez toutes les paroisses. Saint-Pierre du Gros Caillou, moi c'est Saint-Maximin à Sainte-Baume, et on retrouve chaque fois, il y a « je sais ce que tu fais », un point fort, ensuite un point à améliorer, mais quand même, alors tu as perdu l'amour d'antan. Ça, c'est un appel que le Seigneur nous fait à nous tous. Hein. Est-ce que j'ai encore le premier amour? La première fois que j'ai aimé Jésus? Premier témoignage, conversion. Hein. Est-ce que j'ai toujours cette flamme hein, que j'avais au début? Après, il y a les souffrances, les soucis qui font que t'entends, on s'en crasse un peu spirituellement. Hein, et l'adoration est là pour nous aider à réveiller hein, ce don aussi. Pour que l'Eucharistie du dimanche ne soit pas la routine. Tous les dimanches, la même chose. Il y a la même personne, il y a la même chorale, il y a le même chant. Même prêtre, même fleur, hein, voilà, il y a quelque chose qui peut être assez routinier. Eh bien, l'adoration, comme je disais, quand je suis devant le Saint-Sacrement, c'est pas obligatoire, c'est ça que j'évoquais, eh bien, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Et vous avez deux possibilités, vous allez vous poser cette question au bout d'une minute. Je fais quoi ici, là? Là, hein, je suis... Voilà. Et donc, soit vous dites, je perds mon temps, je suis un imbécile, et vous partez immédiatement, hein, en vous disant, j'ai mieux à faire, soit vous dites, Seigneur, tu es là. Je t'aime, augmente, je crois, mais augmente ma foi. Et l'adoration, eh bien, va vraiment être un lieu qui va nous aider à affermir, à aiguiser. Hein, parce que je pose des actes de foi, je ne suis pas tenu d'y être, mais si j'y vais, c'est par amour. Et le fait est peut-être 60 fois, je vais dire, Seigneur, je crois, tu es là, tu m'appelles, tu m'attends, tu me désires, je viens te voir. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Hein. Et donc, c'est ça, cette adoration va m'aider à dépoussiérer hein, ma foi et ne pas tomber dans la routine pour que la prochaine fois que je vais à la messe communier, ça soit une vraie rencontre avec Jésus hein, qui bouscule mon cœur, qui change hein, ma volonté, enfin pour faire la volonté de Dieu. Alors chaque fois, une qualité, un reproche, une promesse. Ça, c'est ce que Jésus fait avec nous quand on se convertit. Hein. Tu fais ça bien, ça, c'est pas très bien, et si tu fais ça, tu changes ça, et ben tu auras ça. Donc il y a 7 lettres. Et ensuite, on a Apocalypse 4, c'est l'adoration au ciel. Quelqu'un, c'est Dieu. Il est devant une mer de cristal, ça représente toute la puissance, la gloire, les grâces de Dieu. Et en Apocalypse 5, alors ils sont tous au ciel en train d'adorer Dieu. Alors c'est intéressant, au ciel, ils jettent leur couronne. Ils se prosternent, les vieillards. Alors les vieillards, c'est les anciens, ça peut être les saints, ça peut être tout ce qu'on veut, hein, on ne sait pas. Et ils jettent leur couronne par terre. Ça veut dire leur gloire, ils la jettent par terre, ils la donnent à Dieu. Et nous, dans l'adoration, souvent, on aime bien se prosterner à genoux. Seigneur, je te donne voilà, ma vie, je te donne mes talents, je te donne mon travail, je te donne mon argent, je te donne mon temps, je te donne tout ce que j'ai. Seigneur, tiens, c'est à toi. Hein, on a tous notre petite couronne, hein, plus ou moins brillante. Et l'adoration, on jette la couronne aux pieds de Jésus. C'est une belle démarche, on voit ça dans l'Apocalypse, ils sont tous à jeter. Voilà, ce que j'ai, mon bien, on a tous quelque chose, hein, ou ma liberté, c'est ça. À toi, Seigneur, parce que tu sais mieux que moi ce qui va me rendre heureux. Voilà. Donc, ils jettent tout ça. Et ensuite, en Apocalypse 5, du trône, il y a un agneau. Et cet agneau, alors c'est Jésus dans l'Eucharistie, bien sûr, pour nous. Hein, et on voit que cette fois, ce n'est pas simplement le ciel, mais c'est la terre, où des créatures sur la terre eh bien, vont chanter le cantique nouveau. Le cantique nouveau, on peut dire en gros, c'est la liturgie. La liturgie, c'est un truc très bizarre. Hein, on est toujours à se taper dessus entre la liturgie ancienne et la liturgie nouvelle. On passe notre temps hein, à manquer de charité sur ces questions-là. Mais enfin, ça, c'est une grande question. Mais le cantique nouveau, c'est ce culte, cette liturgie qui me permet de, en fait, d'être unis, nous, sur terre, dans une grande prière d'amour avec la parole de Dieu, avec les textes qui viennent de Dieu. La liturgie, je ne l'invente pas, je la reçois. Hein, elle vient de Dieu, et d'être en communion avec la liturgie du ciel. Quand je suis à la messe, regardez le film Le Grand Miracle, alors c'est pour les enfants, moi à chaque fois je pleure un peu, quand j'ai une larme qui coule sur ma joue quand je vois ça avec les enfants du catéchisme, hein, c'est très beau, on voit tous les anges de la fartoire qui descendent tous autour de l'autel, et puis il y a tous les saints, il y a toute cette grande communion, hein, ciel et terre. Ça, ce n'est pas le grand miracle qu'il a inventé, hein, mais c'est l'Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Tous ceux au ciel autour du trône. Ce trône, c'est Dieu. Et sur ce trône, il y a aussi l'agneau. Hein. Et l'agneau, c'est... Il a le livre. Ça veut dire qu'il est... Que lui seul pouvait. C'est-à-dire qu'il est souverain. L'agneau, Jésus, dans l'Eucharistie, est souverain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui tient tout. Même les drames, hein, il les permet, il les tient, et il peut les retourner ou les utiliser à son profit. Hein. Il est... On voit, personne ne peut ouvrir le rouleau parce que c'est que l'agneau sur le trône. Donc c'est Jésus qui tient toute chose. Saint Aimar disait, Jésus gouverne le monde du tabernacle. Dans le tabernacle, il gère. Hein, il gère tout, il s'occupe des âmes, il voit tout le monde, les gens qui passent, etc. Hein, il est souverain. Donc l'Apocalypse 5, c'est notre liturgie sur terre, hein, où on est dans l'adoration, à la messe, l'adoration commence à la messe, hein, et on est dans le même cantique, on chante les mêmes chants avec les anges, c'est le même mouvement, hein, voilà, et c'est une union entre le ciel et la terre qui se rejoignent autour de ce petit point, cette petite hostie blanche, qui rassemble le ciel et la terre. Hein, je ne peux pas être plus proche que mes défunts qui sont dans la lumière, hein, que lorsque je suis devant cette hostie. Alors, ensuite, il est dit qu'il se... Sur terre, il se prosterne devant l'agneau jour et nuit. C'est intéressant. Jour et nuit, les amis de l'agneau qui suivent l'agneau partout où il va. Alors j'aime bien, ils le suivent partout où il va. En gros, on peut dire, c'est l'image, dès qu'il y a une messe quelque part, tous les chrétiens, ils y vont. Hein, ils vont tous, dès qu'il y a un prêtre qui commence au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, tac, les chrétiens, ils sont rassemblés ici. Hein. Donc dès que l'agneau arrive quelque part, eh bien les chrétiens, ils se rassemblent. Hein, c'est beau de voir ça tous les jours. Les chrétiens se rassemblent autour de l'agneau. Et l'adoration, c'est les chrétiens qui continuent la messe jour et nuit, hein, autour de l'agneau, toujours avec l'agneau. Jour et nuit, ils se prosternent face contre terre pour adorer. Voilà. Et Dieu étend sa tente sur eux et il est leur pasteur. Il conduit aux sources de la vie. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alors c'est vrai qu'une chapelle d'adoration, c'est comme une tente que Dieu étend. Voilà, il invite et Jésus est pasteur. Il guide les âmes, il console, il guérit, hein, il travaille dans les cœurs. Voilà, il essuiera et en même temps, il essuie nos larmes intérieures, il nous console profondément. Et alors, donc c'est l'image de la chapelle d'adoration perpétuelle en Apocalypse 7. Ensuite, bon, je saute, hein, je vais bientôt finir. Il y a la femme couronnée de 12 étoiles. Alors, c'est la Vierge Marie, l'Église. Marie, modèle, image de l'Église, mère de l'Église, les deux sont insérés. Et on voit qu'elle enfante dans la joie son fils et dans la douleur ses enfants. Marie a un double enfantement. Jésus dans la joie, nous dans la douleur. Hein, parce que nous, on est rebelles. Et donc, elle enfante un nouveau Jésus-Christ. Mais elle a du mal, la Vierge Marie, à faire de nous des nouveaux Jésus-Christ. Le premier, facile. Hein, elle a, avec Jésus, ça s'est fait tout seul. Mais la Vierge Marie, elle enfante dans la douleur, hein, cette Église, ce peuple de nouveaux Jésus-Christ qui sont appelés à devenir des nouveaux Jésus-Christ. Voilà, et c'est dans la douleur. Donc Marie dit un oui à l'ange Gabriel et elle dit un oui à Jésus sur la croix pour être notre mère. Deux fois, elle est mère, hein, de Jésus et de nous. Et alors après, il y a cette belle parole, eux-mêmes, Marie a ses enfants, et il est dit eux-mêmes, ses enfants, ont vaincu le dragon, hein, c'est-à-dire que le dragon, dans le plan de Dieu, le plan de Marie, ce sont les enfants de Marie qui vont vaincre le dragon, et il est dit, par le sang de l'agneau et la parole dont ils furent les témoins jusqu'à mourir. Ça veut dire que Marie peut, vous savez, en un clin d'œil, elle envoie le démon et toutes les forces maléfiques en enfer. Un clin d'œil pour Marie. Elle est tellement au-dessus du démon qu'un clin d'œil suffit pour envoyer tout le monde là-bas. Voilà. Mais c'est pas comme ça. Alors pourquoi ça serait plus pratique pour nous quand même? Mais bon, c'est pas comme ça qu'elle fait. Et donc elle a choisi de le faire par nous, par notre humilité. On voit d'ailleurs à Lourdes, c'est intéressant, hein, Marie, elle, dans la Bible, enfin c'est Lourdes, c'est la Bible, voilà, Genèse, elle écrase du talon, hein, la tête du démon. Le talon, c'est nous, on est le talon de Marie. Et Marie veut écraser la tête, c'est l'orgueil du démon par notre humilité. Les petits de Marie, les petits enfants de Marie, c'est ça que Marie veut ça, pour écraser l'orgueil du démon. Et le démon, il mord, il dit, le talon. Il peut mordre que le talon, il peut mordre que nous, il ne peut pas mordre Marie. Hein, voilà. Donc ici, vous voyez, dans l'Apocalypse, Apocalypse 12, 11, hein, Marie choisit ses enfants pour vaincre le démon par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est la messe, c'est l'adoration perpétuelle. Chaque fois que je viens à la messe, Jésus répand son précieux sang sur moi, sur l'assemblée. Et quand je viens adorer, il répand ce sang. Hein, et sur toutes les personnes que je lui confie, je le mets là. Et Jésus répand son précieux sang qui guérit, qui relève. Alors, donc on a ce grand combat qui passe par nous. Hein, et donc c'est pour ça qu'on a besoin de se battre, hein, pour être fidèle à l'Eucharistie, à la messe. Il est dit, ils sont dans la grande épreuve. Nous sommes dans la grande épreuve, l'épreuve de la fidélité. Hein, venir à la messe, quand on va à la messe le matin, qu'on voit tous les gens qui font leur footing, hein, le dimanche matin, ils vont faire les courses, ils vont à la boulangerie. Ils ont même pas, hein, ils se disent même pas, je rate un truc, quoi. Ils savent même pas qu'il y a la messe le dimanche, hein, et on en voit des centaines. Et nous, on remonte tous ces gens, et on arrive à la messe. Hein, c'est vrai que c'est une grande épreuve, quand même, la fidélité à l'Eucharistie, et puis la fidélité pour aimer celui gratuitement, hein, Jésus, dans l'Eucharistie, en donnant une heure par semaine. Alors, ensuite, ils chantent le cantique nouveau, ils suivent l'agneau où il va, et après, il y a un ange qui est au zénith, qui annonce l'ange qui est au zénith. Le zénith, c'est le point le plus haut, c'est la plus grande nouvelle, et il dit « Adorez le Seigneur, prosternez-vous devant lui ». La grande évangélisation, c'est l'adoration, c'est le premier commandement, c'est le but, hein, de toute évangélisation, d'amener les gens à Dieu pour qu'ils l'adorent, qu'ils le mettent au cœur, hein, de leur vie, au centre de leur existence, et qu'ils fassent sa volonté, en déposant leur vie aux pieds du Seigneur. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis ensuite, on a « Voici les noces de l'agneau, son épouse s'est faite belle, elle s'est vêtue d'une blancheur écarlate », je suis à la fin du livre de l'Apocalypse, « et son épouse, hein, elle est vêtue d'une blancheur éclatante et du lin de ses bonnes actions ». Et donc, ce qui rend l'épouse belle, les bonnes actions en grec, en fait, ce sont les œuvres de justice. Et les œuvres de justice, elles sont doubles. La justice divine, c'est l'adoration de Dieu, mettre Dieu à sa place, adorer Dieu. Et la justice sociale, faire du bien, hein, autour de nous et construire, voilà, nous engager pour la justice. Et donc, on est vêtu de nos œuvres de justice. Hein, c'est ça qui, nos œuvres de justice. Et c'est le sang de l'agneau, ils sont lavés par le sang de l'agneau et ils revêtent leurs œuvres de justice, l'adoration de Dieu et les œuvres de justice pour les autres. Et ensuite, on arrive à la fin, c'est la Jérusalem qui descend. Donc vous avez la Jérusalem nouvelle, c'est ce qu'on aura, bon, quand on sera mort au ciel ou quand le Christ sera revenu dans sa gloire, quand on sera libéré de toute forme de mal. Mais il y a aussi, hein, enfin, la Jérusalem messianique, c'est-à-dire c'est ce qu'on a, c'est l'Église avec toutes ses limites. Et dans cette Église, la vision de l'Église, hein, il est dit un ciel nouveau, une terre nouvelle, il y a quelque chose de nouveau dans mon cœur par le baptême, une nouvelle vie. Et il est dit, voilà, de temple je n'en vis point car le Seigneur est son temple ainsi que l'agneau. La ville peut se passer de l'éclat du soleil car il l'a illuminé, l'agneau lui tient lieu de flambeau. Dans cette église de Dieu, la seule lumière c'est l'agneau. Toutes les autres lumières, elles n'ont pas d'éclat devant l'agneau. Hein. Donc l'agneau, c'est Jésus dans l'Eucharistie, c'est la messe, c'est le Seigneur, hein, qui est là, ressuscité. Et c'est lui qui est la seule lumière de l'Église. Et c'est là que nous sommes appelés à aller éclairer nos cœurs, recevoir cette nourriture, on dit, de charité, mais aussi de vérité, hein, comme disait Benoît XVI, pour recevoir. Dans l'Église, ce qui compte, c'est l'agneau. Le trésor de nos églises, ce n'est pas tous les beaux bâtiments, et on est très heureux d'avoir des très beaux bâtiments, mais la vraie richesse de l'Église, c'est l'agneau, parce que c'est notre... Et c'est ça que Dieu regarde. Son fils, alors bien sûr, les bâtiments, il faut avoir des beaux bâtiments, ça nous aide à prier et à prier ensemble et à vivre notre communion de charité. Mais dans la Jérusalem, voilà, le Seigneur est son temple, hein, ainsi que l'agneau, la ville peut se passer de l'éclat du soleil. Et ensuite, il voit jour et nuit, toutes les nations marcheront à sa lumière, les rois apporteront leurs trésors, donc on est roi par le baptême, hein, on apporte les trésors de nos cœurs. Et il voit devant, hein, c'est la fin, dernière vision, devant ce trône de l'agneau, où jour et nuit, hein, les amis de l'agneau, c'est l'adoration perpétuelle, sont là, il y a un fleuve d'eau vive qui guérit les nations. C'est-à-dire que ce qui guérit les nations dans la Bible, eh bien, c'est ce fleuve d'eau vive qui découle de l'agneau. Hein, l'agneau, c'est l'Eucharistie, la messe, l'adoration, et où... qui est la vraie lumière. Et ce trône est, voilà, et le fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui jaillit du trône de l'agneau et de l'agneau, les arbres de vie, guérissant les nations. Alors voilà pourquoi, hein, chers amis, on prie le jour, là, déjà pourquoi on va à la messe, hein, encore une fois, c'est d'abord la messe, qui est le centre, le cœur, le sommet de notre vie chrétienne. L'adoration continue, jour et nuit, cette adoration, et de ce trône, de cette chapelle d'adoration que vous avez, eh bien, il y a un fleuve d'eau vive, invisible, mais qui guérit les nations. Je m'arrête là, je pense que j'ai assez parlé. On va peut-être faire un autre Père, et après, s'il y en a qui ont des questions, mais s'il y en a qui veulent aller au concert, je crois que c'est super, donc vous pouvez quand même aller, il paraît que c'est génial. Donc on va juste dire un autre Père, après je reste, s'il y en a qui ont des questions, mais...